respirez à fond.
Principe actif, 102.4 FM.
Thank you.
la radio du monde, 4h en temps universel, 6h ici à Paris. L'actualité internationale sur RFI avec Gaëtan Plenet. Bonjour Gaëtan.
Bonjour Edouard, bonjour à tous.
Midi à Pékin, la Chine justement, dès le début de votre journal.
Car c'est là que se trouve le président russe, Vladimir Poutine. Il rencontre en ce moment son homologue chinois, Xi Jinping. On va parler des enjeux de cette visite. On va aussi parler de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Déjà 136 décès probables et 3 candidats vaccins actuellement en développement pour cette souche Bundibugyo. Dans l'actualité également, Peter Madiar en Pologne. C'est son premier déplacement à l'étranger depuis qu'il est devenu le nouveau Premier ministre hongrois. Et puis on sera à Séoul, où le Centre Pompidou s'apprête à ouvrir un musée. L'entretien a commencé il y a une petite heure maintenant à Pékin. Le président chinois Xi Jinping reçoit son homologue russe Vladimir Poutine. Il est arrivé hier dans le pays, une semaine seulement après la venue d'un autre président, celui des États-Unis, Donald Trump. Bonjour Claire Broadhurst.
Bonjour Gaëtan, bonjour à tous.
Vous êtes notre envoyée spéciale permanente à Pékin, où vous suivez donc cette visite de Vladimir Poutine au Palais du Peuple. Une visite, Cléa, très symbolique dans un contexte international sous très haute tension.
Exactement, Vladimir Poutine vient à Pékin avec un objectif clair, consolider une relation devenue essentielle pour Moscou. Depuis l'invasion de l'Ukraine et les sanctions occidentales, la Russie dépend de plus en plus de la Chine pour ses exportations d'énergie, ses débouchés commerciaux et l'accès à certains composants technologiques indispensables à son industrie. Alors au cœur des discussions, pétrole, gaz et sécurité énergétique. Moscou espère notamment faire avancer le gigantesque projet du gazoduc Power of Siberia 2, destiné à rediriger vers la Chine une partie du gaz autrefois vendu à l'Europe. La crise au Moyen-Orient et les tensions autour du détroit d'Ormuz rendent ce projet encore plus stratégique pour Pékin, qui cherche à sécuriser ses approvisionnements énergétiques. Mais c'est vrai que derrière les grandes déclarations d'amitié, la relation sino-russe reste profondément déséquilibrée. La Chine pèse désormais bien davantage économiquement et Pékin veille à ne pas devenir trop dépendante de la Russie. Car Xi Jinping cherche aussi à préserver un dialogue stable avec Washington après la visite, vous le disiez, de Donald Trump. Pékin tente donc de jouer, si vous voulez, sur plusieurs tableaux, partenaire stratégique de Moscou, interlocuteur des États-Unis et puissance centrale d'un nouvel équilibre mondial plus multipolaire, Gaëtan.
Merci, Claire Broadhurst, en direct de Pékin. Vous suivez donc cette visite. Selon des médias russes, le président russe Vladimir Poutine a salué devant Xi Jinping la dynamique forte et positive de la coopération entre les deux pays. On le disait, cette visite de Vladimir Poutine à Pékin, elle suit donc celle de Donald Trump la semaine dernière. Avec Xi Jinping, ils ont notamment parlé de Taïwan, cette île revendiquée par la Chine comme faisant partie intégrante de son territoire. Pékin plaide pour que les États-Unis cessent leur livraison d'armes à Taipei. Trump, lui, a suggéré que ces ventes puissent servir de levier de négociation avec les autorités chinoises. Mais l'avenir de Taïwan ne peut être décidé par des forces étrangères, ni être pris en otage par la peur, la division ou des intérêts à court terme. Voilà ce que déclare ce matin le président taïwanais Lai Ching-te à l'occasion d'un discours d'anniversaire 2 ans après sa prise de poste. Se laver régulièrement les mains, ne plus serrer celles des autres pour se dire bonjour et puis de manière générale limiter les contacts au maximum. Voilà quelques-uns des gestes barrières utiles à rappeler alors que l'épidémie d'Ebola prend de l'ampleur en République démocratique du Congo. Déjà 136 décès probablement dus au virus ainsi que 543 cas suspects. Suspect car il est toujours très difficile de pouvoir confirmer des échantillons en laboratoire, des échantillons d'ailleurs eux-mêmes difficiles à obtenir et à acheminer vers les structures d'analyse sanitaire. En tout cas, l'Organisation mondiale de la santé met en garde sur l'ampleur et la rapidité de cette épidémie. L'OMS qui, ce matin, doit donner ses recommandations pour lutter contre la souche Bundibugyo. Elle intrigue autant qu'elle fait peur, Jérémy Hanche.
Cette souche a déjà provoqué 2 épidémies. La première en 2007 dans le district de Bundibugyo en Ouganda, d'où elle tire son nom. La deuxième en RDC en 2012, pour en tout quelques 70 morts connus. Cette souche serait en effet moins mortelle que la forme Zaïre d'Ebola, la plus répandue et aussi la plus virulente. Toute la question, c'est maintenant de savoir si les seuls vaccins existants contre Ebola, c'est-à-dire contre la forme Zaïre, peuvent aussi protéger contre la forme Bundibugyo. Un vaccin, le Ervebo, fabriqué par l'américain Merck, pourrait être de ceux-là. Face à l'urgence, l'OMS a le choix, passer outre les précautions d'usage et le recommander, ou bien demander des essais cliniques en urgence. Lors de la dernière grande flambée d'Ebola en RDC en 2018, il avait fallu 2 ans pour contrôler l'épidémie, alors que le vaccin était déjà disponible. Jérémy Lange, Genève, RFI.
Et au total, 3 candidats vaccins sont actuellement en développement pour cette souche Bunibungio. C'est ce que nous dit l'Africa CDC, l'agence sanitaire de l'Union africaine. Son directeur général, Jean Kaseya, est en visite en RDC, où il a annoncé un appui d'$1 million pour soutenir le déploiement des experts et du personnel soignant. Mais il prévient, malgré ces avancées, il va falloir du temps avant l'homologation d'un vaccin.
J'ai organisé une réunion de tous les experts mondiaux le 16 mai et mon directeur de la recherche est en réunion avec le groupe technique pour voir comment on accélère surtout les vaccins Merck, RVBO, et ça c'est le vaccin le plus prometteur. Mais je dois être très clair avec les gens, nous ne pouvons pas attendre un vaccin avant les 4-5 mois. Il y a des procédures techniques qui prennent du temps, on appelle ça les GMP, on appelle les clinical trials, ça prend du temps, mais on est en train d'avancer. Pour la première fois, avant décembre cette année, on va se dire que s'il y a une autre épidémie de Bunibugyo, on aura le vaccin. Et c'est à cela qu'on s'attelle. On a prouvé que fermer les frontières n'est pas une mesure de santé publique. Et ce dont les pays ont besoin, le Soudan, l'Ouganda et la RDC, ils ont besoin de beaucoup plus d'appui pour renforcer leur système de diagnostic, système de surveillance, et aussi pour permettre à ce que nous puissions casser la chaîne de transmission. C'est cela que les Occidentaux doivent nous donner.
Des propos recueillis par Pascal Moulégois. Face à cette épidémie, le Royaume de Bahreïn annonce interdire l'accès à son territoire aux voyageurs étrangers venus du Soudan du Sud, de la RDC et de l'Ouganda. Ça restera en vigueur un mois. Les États-Unis ont fait la même chose lundi pour les non-américains qui se seraient rendus dans ces pays au cours de ces 3 dernières semaines, avec une exception quand même pour les footballeurs congolais qui doivent participer au Mondial qui débute le mois prochain, notamment sur le sol américain. Ils vont pouvoir venir, oui, mais si l'un des léopards est effectivement passé par la RDC pendant les 21 jours précédant son arrivée aux États-Unis, eh bien il devra se plier à un strict contrôle sanitaire, une exception qui ne s'appliquera pas aux supporters congolais. 21 jours, on le disait, parce que c'est le temps d'incubation pour le virus Ebola. Sachez que si vous avez des questions sur cette épidémie, eh bien vous pourrez les poser tout à l'heure dans la première partie d'Appel sur l'actualité avec Juan Gomez. Et c'est le professeur Jean-Jacques Mouyembe qui vous répondra, directeur de l'Institut National de Recherche Biomédicale de Kinshasa et co-découvreur du virus Ebola. Rendez-vous après le journal de 8h en temps universel. C'est ce qu'on appelle souffler le chaud et le froid, et c'est signé Jay Givens, le vice-président américain. Il fait état, je cite, de bons progrès dans les discussions avec l'Iran pour mettre fin à la guerre, mais il le dit aussi, les États-Unis ont le doigt sur la gâchette. Donald Trump, lui, affirmait quelques heures plus tôt donner 2 ou 3 jours à Téhéran pour trouver un accord. L'armée iranienne promet, elle, d'ouvrir de nouveaux fronts en cas de nouvelle attaque américaine. Les États-Unis, où Trump a retiré sa plainte contre l'administration fiscale avec qui il a trouvé un accord dévoilé hier, le fisc américain ne poursuivra finalement pas le président, ni sa famille, ni ses entreprises pour d'éventuels arriérés d'impôts. En échange, le locataire de la Maison-Blanche crée un fonds anti-instrumentalisation, 1,8 milliard de dollars, qui serviront en fait à indemniser les victimes injustes de la justice fédérale. Il estime d'ailleurs en faire partie. Dans les faits, Nicolas Rocca, ça devrait permettre à des soutiens de Donald Trump de toucher des recettes fiscales du gouvernement fédéral.
Abandonner la plainte de sa famille contre l'agence fiscale américaine en échange de la création d'un fonds d'$1,8 milliard. L'accord de Donald Trump avec le département de la justice met le feu au Capitole. Un comité de 5 personnes nommées dans les 30 prochains jours par le ministre de la Justice sera chargé d'attribuer des compensations aux victimes injustes du système juridique ciblées pour des motifs politiques. Une procédure en dehors de tout cadre existant sur laquelle le pouvoir du président semble total. Donald Trump pourra lui-même remplacer n'importe quel membre de la commission, tandis que l'autre personne en charge, c'est son ancien avocat, Todd Blanche, le ministre de la Justice. Ce dernier a d'ailleurs passé ce mardi une audience assez houleuse au Sénat, contraint de nier difficilement les accusations de corruption, de création d'un fonds occulte, promettant un processus transparent. Si le président et sa famille ne pourront recevoir d'argent, le vice-président J.D. Vance, lui aussi interrogé sur le sujet, a refusé d'exclure que les personnes condamnées dans le cadre de l'attaque sur le Capitole en 2021 puissent, eux, bénéficier d'une indemnité.
La précision de Nicolas Roca. C'est son premier déplacement officiel à l'étranger depuis sa prise de fonction. Le nouveau Premier ministre hongrois, Péter Madiar, est en Pologne. Il est arrivé hier, mais c'est aujourd'hui qu'il doit rencontrer son homologue polonais, Donald Tusk, ainsi que le président du pays, Karol Nawrocki. La Pologne, comme premier déplacement, c'est très symbolique, alors que Budapest veut tourner la page de son prédécesseur pro-russe, Viktor Orban, réparer les relations tendues avec Varsovie, et puis afficher aussi son retour sur le plan européen. C'est ce que nous explique Wojciech Przybylski, politologue polonais, rédacteur en chef de la revue Wiesgard Insight.
Il ne s'agit pas seulement d'un geste symbolique, mais d'un choix très pragmatique, d'un partenariat stratégique pour la Pologne, qui considère la Hongrie comme un allié clé, à condition évidemment que la Hongrie mette en œuvre les orientations stratégiques fondamentales qu'elle a négligées au cours des 16 années de règne de Viktor Orban. Péter Madiar vient honorer et reconnaître cette nouvelle orientation et cette nouvelle ouverture. En contrepartie, ce qu'il attend clairement, c'est le soutien de la Pologne pour rétablir la place de la Hongrie dans l'Union européenne, y compris le soutien de Varsovie concernant le déblocage des fonds européens qui constitue le point le plus important de son programme politique.
Des propos recueillis par Sofia Katsenkova. En Corée du Sud, le syndicat de Samsung Electronics annonce qu'une grève va bien débuter demain dans l'entreprise. Les négociations avec la direction, notamment concernant une hausse des salaires, n'ont rien donné. D'où cette grève, la deuxième de l'histoire du géant sud-coréen des puces électroniques, mais celle-ci pourrait être encore plus suivie que celle de 2024. On en parle dans Aujourd'hui l'économie, ce matin, avec Stéphane Genest. En attendant, la Corée du Sud, où le centre Pompidou présente la nouvelle branche de sa constellation de musées à l'étranger. En collaboration avec le groupe industriel Hanwha, le centre Pompidou sera donc ouvert à Séoul à partir du 4 juin, pendant 4 années, avec 2 expositions par an, dont la première sur le cubisme. De quoi faire briller l'art moderne et contemporain dans un pays où le marché de l'art attire de plus en plus d'acquéreurs. Correspondance à Séoul de Célio Fioretti.
Une nouvelle branche du centre Pompidou en Corée, la deuxième en Asie après Shanghai. Au-delà des collections du musée parisien, cette branche coréenne entend mettre en avant la Corée du Sud et ses artistes, explique Lee Sang-soo, président de la Fondation Hanwha pour la Culture.
Nous considérons que l'expérience accumulée par le centre Pompidou représente précisément l'une des valeurs les plus nécessaires à la Corée et à Séoul aujourd'hui. À travers cette mission, nous souhaitons concrétiser notre vision de faire de Séoul l'un des principaux pôles artistiques et culturels d'Asie et promouvoir les artistes coréens à l'international.
Une première exposition qui fait rencontrer les artistes coréens et occidentaux présente le président du Centre Pompidou, Laurent Lebon.
Je crois pouvoir dire que c'est la principale exposition cubiste en Asie de ces 50 dernières années, avec une réunion de plus d'une centaine d'œuvres, puisque nous avons à la fois des œuvres du Centre Pompidou et des œuvres d'artistes coréens.
2 expositions par an sont prévues, avec au programme Matisse, Chagall ou encore les surréalistes. Au mois de novembre, ce sera au tour de Bruxelles, en Belgique, d'accueillir elle aussi une branche du Centre Pompidou. C'est le Fioretti, Séoul, RFI.
Merci d'écouter RFI. Il est 6h13 à Paris.
Gaëtan Plenet.
Le retour de l'actualité africaine dans un gros quart d'heure. D'ici là, on est au Liban, où les frappes israéliennes continuent, et ce malgré le cessez-le-feu trouvé le mois dernier. On va rejoindre notre correspondant à Beyrouth. Il nous parlera notamment du lourd tribut payé par les enfants. La réalisatrice rwandaise Marie-Clémentine Douza-Bejambo sera notre invitée culture ce matin. Son film Benimana est présenté en sélection Un certain regard au Festival de Cannes. Elle va nous en parler. Et puis on va parler aussi des MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Ce sera notre conseil santé du jour. Mais d'abord, direction la Turquie pour parler du culte de l'arme à feu qui sévit là-bas et qui a fait plusieurs nouvelles victimes ces derniers jours. 6 personnes ont été tuées à coups de fusil à pompe lundi dans le sud du pays. Le tireur qui avait dans le passé été hospitalisé à plusieurs reprises en unité psychiatrique et qui connaissait certaines de ses victimes, notamment son ex-femme, a finalement été retrouvé hier au terme d'une véritable chasse à l'homme et il a mis fin à ses jours avant d'être interpellé. Un drame de plus donc dans un pays où plus de 30 millions d'armes circulent. Le mois mois dernier, déjà deux fusillades dans des établissements scolaires avaient fait 10 morts et plusieurs dizaines de blessés. L'un des assaillants avait 14 ans et fréquentait un club de tir avec son père. Depuis, c'est la panique dans les écoles et le président Erdogan a annoncé qu'il voulait restreindre l'accès aux armes. Reportage à Ankara de Céline Pierre Magnani.
Deux policiers montent la garde devant le portail de l'établissement scolaire. Nous sommes dans un lycée public de l'arrondissement de Mamak, une banlieue défavorisée d'Ankara, la capitale turque. Les récentes fusillades dans les écoles ont beaucoup affecté l'ambiance au sein de l'établissement. La professeure de chimie, qui souhaite garder l'anonymat, partage son émotion.
Nous avons repris les cours le lundi. Tout le monde avait peur. Les élèves étaient tous très inquiets. Et pour ma part, je me suis dit qu'il fallait que je sois plus prudente avec eux. Je n'ai pas assez d'éléments pour comprendre dans quelle réalité ils vivent.
Moi, Babyface.
Babyface comment?
Babyface Nelson. Babyface Nelson, blond la quarantaine.
Vous emmerde tous.
Du haut de ses 1m80, le double de ça.
Tu as compris, bien sûr.
Vu qu'en cartèche,
je n'ai pas vu
l'ombre de tes mains.
J'aurais pu crever.
Oui, ça, j'aurais pu.
J'aurais pu laisser
des traces sur ton cou.
Je ne demandais
qu'un peu d'amitié.
Allez-vous faire foutre.
Tous autant que vous êtes.
Vous pouvez crever.
Je m'en lave les mains.
Ils ne sont pas plus sales.
Plus sales que les vôtres. Regardez, il est bien.
Tu t'appelles comment?
Moi, Babyface.
Babyface comment?
Babyface Nelson.
Il s'appelle comment?
Lui, Babyface.
Babyface comment?
Babyface Nelson.
Babyface,
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 If I can be fair, 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 if I can be fair,